Merci d'écouter RFI, 11h30 en temps universel. Il est 13h30 ici à Paris. Et dans une demi-heure, ce sera l'heure de votre journal. Charlotte Hydrac, bonjour.
Bonjour.
Avec à la une.
Des troupes supplémentaires dépêchées par Israël dans le sud du Liban. L'État hébreu élargit son offensive contre le Hezbollah. De son côté, le mouvement chiite a tiré des roquettes sur Haïfa. On appellera nos envoyés spéciaux dans cette grande ville au nord d'Israël. Le Hezbollah qui assure que malgré des frappes douloureuses, ses capacités sont bonnes. Je cite que sa direction est parfaitement organisée. Des soldats nord-coréens déployé en Ukraine aux côtés de la Russie, c'est très probable selon la Corée du Sud. Et cela après le récent rapprochement entre Pyongyang et Moscou. On sera aussi à l'Assemblée en France, où le Premier ministre Michel Barnier affronte là cet après-midi sa première motion de censure. Le texte est signé par la gauche, mais il a en fait peu de chances de passer. Le prix Nobel de physique, deuxième de la saison, l'américain John Hopfield et le britanno-canadien Geoffrey Hinton récompensés pour leurs travaux sur l'apprentissage automatique. Vous ne savez pas ce que c'est, moi non plus. On essaiera d'y voir plus clair. Et puis la pelouse, c'est fini pour lui. Andrés Iniesta annonce sa retraite à 40 ans. Légende, légende du Barça et de la sélection espagnole de foot. Il raccroche après une dernière expérience professionnelle aux Émirats Arabes Unis.
Et on verra tout ça avec vous, Charlotte Hydrac, tout à l'heure à midi, temps universel.
RFI, l'Europe à midi, Anne Cantner.
Pour l'heure, nous parlons de l'actualité en Europe et nous prenons tout de suite la direction de la Russie où les autorités veulent durcir leur politique migratoire. Les députés commencent aujourd'hui à examiner plusieurs lois sur ce sujet pour renforcer le contrôle de l'immigration illégale et la répression. Le président de la Douma en a fait une priorité et nous sommes en direct avec notre correspondante à Moscou, Anissa El-Jabri, pour en parler. Anissa, premier dispositif discuté par les parlementaires, le fait d'avoir une citoyenneté étrangère comme circonstance aggravante d'un crime.
Oui, posséder une autre nationalité, Anne, que la russe serait une circonstance aggravante au même titre que la récidive ou la vengeance. Et c'est présenté comme, je cite, un mécanisme préventif qui contribuera à un comportement, je cite toujours, plus responsable des étrangers. Pour justifier cette proposition, le député qui l'a présentée invoque des statistiques de la commission d'enquête. Celle-ci indique en effet une augmentation de 55% du nombre de crimes dits à caractère extrémiste commis par des migrants au cours de ce premier semestre 2024. Autre circonstance qui serait aggravante à la commission illégale d'un crime ou d'un délit, cette circonstance qui doit être votée prochainement, serait le séjour illégal en Russie.
Et d'autres mesures sont encore à venir dans les prochaines semaines.
Oh oui, Anne, il y en a vraiment beaucoup sur les tablettes de la Douma, est aussi à examiner. Par exemple, un projet de loi qui assimile l'organisation de l'immigration clandestine à un délit particulièrement grave. Les autorités préparent aussi un registre des étrangers séjournant illégalement en Russie. Enfin, vous le disiez, le contrôle du séjour régulier, cette fois lui aussi, se durcit. A par exemple déjà été adopté en deuxième lecture un projet de loi qui fixe une durée de mariage de 3 ans pour pouvoir obtenir un permis de séjour temporaire. Écoutez, Vyacheslav Volodin, le président de la Douma, c'était il y a pile une semaine lors du débat parlementaire.
Nous devons adopter rapidement cette loi en troisième lecture. Sinon, des séducteurs sournois apparaîtront pour formaliser rapidement les relations. Nous n'avons pas besoin de telles personnes ici qui trompent nos femmes. Les femmes ont besoin d'être éclairées. Elles doivent savoir avec quel genre de personnes elles officialisent leurs relations. Surtout nos babouchkas. Elles ne devraient pas être entraînées dans ce type de fornication.
Est-ce que ces mesures font l'unanimité, Anissa?
Alors, il faut se rappeler ce contexte, hein, la foulée de l'attentat terrible du Crocus en mars dernier, 145 morts, 551 blessés dans un attentat revendiqué par l'EI et exécuté selon les autorités russes par des Tadjiks. L'atmosphère dans le pays s'est alors extrêmement tendue sur la question migratoire. On a même relevé à cette époque une explosion des propos et actes racistes. Alors, aujourd'hui, le choc est passé, mais les autorités veulent montrer à la population qu'elles agissent, parce que le fait est que cette nouvelle ligne, elle interroge d'abord les avocats. Ceux cités dans le journal Commerçante ce matin estiment par exemple que faire de la détention d'une autre nationalité une circonstance aggravante en cas de crime ou de délit, eh bien que cette disposition contrevient à un principe constitutionnel en Russie, celui d'égalité devant la loi, je cite, sans distinction de sexe, de nationalité ou de race.
Et ce n'est pas la seule critique qui est émise.
Non, il y en a une autre qui est politique. Et elle vient de Ramzan Kadyrov, l'homme fort de la Tchétchénie, a publié hier soir un texte en ce sens sur sa chaîne Telegram officielle. Il va jusqu'à évoquer une approche médiévale, ce sont ses mots. Et surtout, et Ramzan Kadyrov est un des rares, si ce n'est le seul, à pouvoir se permettre ce genre de remarques en Russie. Il juge, je cite, que le problème en discussion ne peut être résolu par l'expulsion massive de migrants et, je cite encore, qu'il n'est pas dû aux fautes des personnes venant en Russie, mais à la négligence de ceux qui, à un moment donné, auraient dû traiter les problèmes relevant de leurs compétences. Allusion indirecte, c'est vrai, mais transparente en Russie, c'est pour les forces de sécurité. La conclusion de Ramzan Kadyrov est donc sans appel. Les autorités n'obtiendront aucun résultat en incitant à la haine envers les migrants. Enfin, dernière critique, elle vient cette fois des entreprises, petites comme grandes. Elles sont nombreuses à avoir déjà beaucoup de mal à trouver de la main-d'œuvre. Et dans une économie toujours en surchauffe, eh bien, elles craignent que ces lois n'aggravent encore leurs problèmes.
Anissa El-Jabri, en direct de Moscou pour RFI. L'actualité en Europe, c'est aussi cette nouvelle étape du bras de fer entre Bruxelles et la Chine. Après la décision des 27 d'imposer des taxes supplémentaires aux véhicules électriques chinois, Pékin se laisse la possibilité de riposter sur les alcools forts comme le cognac. À partir de vendredi, les importateurs de brandy, c'est le nom générique pour ce type d'eau-de-vie, vont devoir déposer une caution auprès des douanes chinoises et ce dépôt pourra être débité de manière rétroactive. Si les autorités chinoises décident d'imposer des surtaxes, la France, principal exportateur de cognac, prévient qu'elle va contester ces mesures. RFI, il est 13h37 en Allemagne et nous vous emmenons maintenant à la frontière franco-allemande, à Kehl, où désormais policiers et douaniers travaillent ensemble depuis que Berlin a décidé de manière unilatérale de rétablir des contrôles à ses frontières. Reportage, Wilhelm Munoz-Boileau.
C'est au bord du Rhin, dans la ville allemande de Kehl, à seulement une station de tram de Strasbourg, que se dresse le bâtiment qui abrite le centre franco-allemand de la coopération policière et douanière. Une caserne en briques du 19e siècle, occupée successivement par des troupes françaises et allemandes, où 60 fonctionnaires des deux pays travaillent aujourd'hui en bonne entente. Ils sont douaniers, policiers ou gendarmes, et c'est dans la salle de veille, située au 3e étage du bâtiment, que s'opère le gros de leur travail, comme l'explique Frédéric Véron, la responsable française de la salle.
Ici, vous êtes au cœur du CCPD, la salle de veille, qui est ouverte en H24, 7 jours sur 7. Donc c'est ici qu'arrivent toutes les demandes qui sont transmises au CCPD.
Dans la vaste pièce aux murs recouverts de cartes de France et d'Allemagne, une dizaine de fonctionnaires en uniforme, français et allemands, sont installés derrière de grands écrans. Tous sont aussi à l'aise dans la langue de Molière que dans celle de Goethe, mais chacun répond aux emails et aux appels émanant des autorités de son pays.
On travaille principalement avec des administrations, donc police, gendarmerie et douane, ainsi que la justice et les préfectures.
Et alors c'est quel type de demande qui vous arrive ?
De tout ordre, ça peut être une simple identification de véhicule, une ligne téléphonique, des comptes bancaires, une poursuite transfrontalière. Également tout ce qui est étranger, savoir si une personne est connue... Par exemple, en Allemagne, c'est un titre de séjour en Allemagne.
Les demandes d'informations liées au titre de séjour ont fortement augmenté depuis le rétablissement des contrôles aux frontières par l'Allemagne. Mais ce sont les demandes d'antécédents judiciaires et d'identification de véhicules qui restent les plus fréquentes.
Gemeinsames Zentrum Kehlgänger, hallo. Ja, Moment, kurz.
Cet après-midi-là, justement, une policière allemande du centre reçoit un appel de la Bundespolizei de Freiburg. Au bout du fil, son interlocuteur lui indique qu'un camping-car volé à Freiburg et équipé d'un GPS a été localisé sur l'autoroute à Lyon.
Oui, je suis Pfizer, CCB de Kehl, c'est la gendarmerie de Lyon. Oui, écoutez, c'était concernant un signalement de véhicule. Je vous donne l'immatriculation.
En quelques dizaines de minutes, le véhicule est intercepté et son occupant appréhendé. Un succès dont se réjouit Maxime Fischer, coordinateur allemand du centre.
Dernièrement, on a localisé plusieurs véhicules volés et arrêté les voleurs. Le travail de nos équipes permet de résoudre une affaire en moins d'une heure avec succès.
Cet échange très rapide d'informations s'est avéré crucial par le passé, comme lors de l'attentat de Strasbourg en 2018.
Il y avait la possibilité probabilité que le terroriste ait fui vers l'Allemagne. Et on a reçu le signalement d'habitants de Kiel qui pensaient avoir vu le terroriste côté allemand. Et grâce à nos contacts privilégiés avec les autorités françaises, on a très rapidement pu établir que ce n'était pas lui.
Preuve de l'utilité du travail de M. Fischer et de ses équipes, depuis la création du centre il y a 25 ans, le nombre de demandes qui y sont traitées a triplé.
Il y a Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur, qui était venu pour l'inauguration.
Dans la cage d'escalier du bâtiment, une série de photos retrace les moments phares de l'histoire du centre depuis sa création en 1999.
On a été le premier centre de ce type en Europe et dans le monde. Il a été créé dans les années 90 dans la continuité de l'accord de Schengen qui a levé les contrôles aux frontières au sein de l'Union européenne et qui a permis la libre circulation des marchandises et des personnes. Mais dès le début, il était clair que cette libre circulation n'allait pas avoir que des avantages et que des criminels pourraient aussi en profiter. Il fallait donc renforcer le pouvoir des forces de l'ordre. Un moyen d'y parvenir, ça a été de créer des centres de coopération policière et douanière entre États membres frontaliers pour faciliter l'échange d'informations entre nos services de renseignement et pour une meilleure coordination.
La création de ces centres a été actée par le traité de Mondorf-les-Bains de 1997. Celui de Kiel a été créé 2 ans plus tard. Depuis, la France en compte 9 autres à ses frontières avec la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, l'Italie et l'Espagne.
Reportage de Villoen Munoz-Boileau à la frontière franco-allemande. 13h41 ici à Paris. On va maintenant jeter un œil à la presse européenne et plus précisément à la presse britannique qui n'a pas de mots assez durs envers le Premier ministre Keir Starmer en poste depuis 3 mois seulement et déjà en grande difficulté, Léonard Vincent.
Oui, Anne, la démission ou le limogeage, c'est pas encore bien clair, de sa chef de cabinet, Sue Gray, le week-end dernier, est encore une nouvelle difficulté après un été catastrophique pour le Premier ministre. La presse britannique en fait ses choux gras aujourd'hui. Le Times, le prestigieux quotidien de la City, en fait même sa une sous le titre « La crise du 10 Downing Street, le bureau du Premier ministre, est plus grande que Sue Gray ». À l'appui de ses dires, le journal cite d'ailleurs de hauts responsables anonymes du gouvernement pour qui le problème est systémique. Le fait est que Sue Gray était en conflit ouvert avec des conseillers du Premier ministre qui ont fini par obtenir sa tête. Soit Keir Starmer n'était pas au courant, dit l'une de ses sources proches de Keir Starmer, soit il l'était et n'a rien fait pour l'empêcher, pour empêcher ce coup de force de ses collaborateurs.
Le Guardian, quant à lui, fait le portrait du remplaçant de Sue Gray.
Oui, il s'agit de Morgan McSweeney, qui était le directeur de la campagne victorieuse de Keir Starmer. Il promet, lui, selon des sources au sein de Downing Street, des changements radicaux dans le mode de fonctionnement qualifié de dysfonctionnel du gouvernement. Du reste, le Times évoque aussi l'inquiétude de certains ministres devant la lenteur avec laquelle Keir Starmer a répliqué aux scandales à répétition qui se sont fait jour dans la presse depuis 3 mois, notamment sur les luxueux cadeaux reçus par certains dirigeants travaillistes, y compris le chef du gouvernement lui-même, de riches donateurs. Bref, dit le Times, désormais, les candidats ne se bousculent pas pour aller travailler à Downing Street et certains réfléchissent à 2 fois, dit-il, avant d'exprimer leur intérêt pour les postes qu'on leur propose.
Et cette nouvelle polémique, elle a évidemment des répercussions politiques.
Et oui, The Independent aujourd'hui relaie ce sondage désastreux pour les travaillistes qui place désormais les conservateurs à 1 point seulement du parti du Premier ministre. Le journal explique que le dernier sondage de l'Institut More in Common indique que les travaillistes pointent désormais à 29% des intentions de vote en baisse d'un point, tandis que les conservateurs en gagnent 2 à 28%. Il s'agit de la plus petite avance que le parti travailliste ait connue depuis que l'Institut a commencé à suivre les intentions de vote l'année dernière.
Merci Léonard Vincent.
RFI, l'Europe à midi.
La France se demande toujours comment remettre ses finances sur les rails et le ministre du Budget prévient ce matin qu'il ne doit pas y avoir de tabou dans les discussions pour économiser, on le rappelle, 60 milliards d'euros. Les réflexions, les négociations se poursuivent pour répartir les coupes budgétaires. Et en parallèle, le ministre des Finances a tenté hier de convaincre les Européens du sérieux de Paris. Pas facile, Agnès Kakoumor. Et c'est un symbole fort. Les économies françaises et allemandes, d'ailleurs, vont beaucoup moins bien désormais que celles de pays du sud de l'Europe.
Synonyme de la crise de la zone euro, il y a encore une décennie, les pays d'Europe du Sud affichent fièrement leurs bons résultats. La Grèce et l'Espagne s'attendent à dépasser les 2% de croissance du PIB. Le Portugal ralentit légèrement mais tient bon face à la morosité européenne. Parallèlement, l'Allemagne souffre de la faiblesse de la demande et de la dégradation continue du climat économique des entreprises. Berlin prévoit désormais une contraction de l'économie pour cette année avec une baisse de 0,2% du produit intérieur brut. En revanche, la Grèce et l'Espagne tirent leur épingle du jeu grâce notamment au tourisme. Si Madrid fait figure de locomotive de la zone euro, c'est aussi à cause de l'immigration qui a dopé sa croissance et a permis de baisser le chômage. Quant aux Grecs, malgré les avancées, ils affichent encore le pouvoir d'achat le plus faible en Europe, derrière les Bulgares.
On reste en Grèce pour parler de ce qui est l'une des conséquences des difficultés économiques, la baisse du nombre de naissances. Alors la situation économique n'est évidemment pas la seule des explications. Les Grecs sont aussi plus pessimistes, moins enclins à avoir des enfants dans un monde en crise. Écoutez le reportage de notre correspondant, Joël Brunner.
Katerina, 32 ans, et Thanos, 31 ans, sont en couple depuis 10 ans et vivent à Kalitea, dans la banlieue d'Athènes. Ensemble, ils ont un chat, prénommé Lio, mais pas d'enfant. La faute, selon eux, à des revenus trop limités et à la précarité générale des jeunes générations.
À l'avenir, nous aimerions avoir un enfant ensemble. Si nous n'en avons pas jusqu'à présent, c'est principalement pour des raisons économiques, à cause du bas niveau des salaires en Grèce. Moi, je suis comptable dans une entreprise et je perçois un salaire de base. En ce moment, mon compagnon ne travaille pas. Donc cela signifie que nous vivons avec un salaire net d'environ 750 euros. Quand vous songez que le loyer s'élève à près de 400 euros et qu'il faut encore payer le supermarché, c'est compliqué. Le fait est que même lorsque nous aurons un nouveau de salaire, le coût actuel de la vie est si cher en Grèce que nous ne serons toujours pas très à l'aise.
Comptable, lui aussi, son partenaire met l'accent sur les conséquences de la décennie de crise économique qui a frappé la Grèce. À l'heure actuelle, le salaire annuel moyen est par exemple toujours 25% plus bas que ce qu'il n'était avant la crise. En parallèle, l'inflation touche à la fois les loyers, l'énergie et les produits de consommation courants.
Comme vient de le dire ma copine, pour un couple avec deux salaires de base, si tu n'as pas le soutien de ta famille, c'est juste impossible d'envisager d'avoir un enfant. Autrement, il faut soit que tu retournes vivre chez tes parents, soit que tu trouves une manière de gagner plus d'argent. Il n'y a pas 36 solutions. Quand tu n'as pas ta famille à tes côtés, c'est juste pas possible. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui luttent pour tout simplement s'en sortir. Alors, comment est-ce qu'ils pourraient faire des enfants? Le fait est que les loyers ont augmenté, pas les salaires. Voilà, c'est tout.
Le pessimisme ambiant dans une société où les crises succèdent aux crises et le manque d'espoir en l'avenir politico-économique explique en partie les freins psychologiques à faire des enfants. À 90 ans, ce commerçant à la retraite imagine en effet un futur plus terne pour les prochaines générations que pour les précédentes.
À l'époque de mon père et de mon grand-père, la plupart des familles faisaient 4, 5 ou 6 enfants. Aujourd'hui, elles n'en font plus qu'un seul et les choses sont malgré tout difficiles. Mon fils, par exemple, n'a eu qu'un seul enfant. Ce n'est pas qu'il n'aurait pas voulu avoir 2 ou 3 enfants au total, mais il a constaté qu'envoyer son fils prendre des cours privés lui coûtait 600 euros par mois, c'est-à-dire le salaire d'un ouvrier. Donc, s'il avait voulu donner à un deuxième, voire à un troisième enfant, la même qualité de vie que pour le premier, il n'en n'aurait tout simplement pas eu les moyens. Il a donc finalement décidé de n'avoir qu'un seul enfant.
Étudier ce rapport entre économie et démographie, c'est justement l'objet de l'enseignement d'Alexandra Tragaki à l'université Arokopio. En cette période de pré-rentrée, nous la retrouvons sur le campus.
Par rapport à celui de 2011, le recensement de 2021 a montré en Grèce une diminution de la population d'environ 3%. C'est une tendance qui ne peut que se poursuivre, notamment en raison de la dynamique naturelle de la population. Le nombre de naissances actuelles est en effet très difficile à inverser. non seulement à cause de la réticence de certains à avoir des enfants, mais aussi et surtout parce que le nombre de femmes âgées de 20 à 40 ans, et donc en âge d'avoir des enfants, diminue considérablement. Ce qui nous pose problème actuellement, collectivement, dans toute l'Europe, ce n'est pas que la taille de la population européenne diminue par rapport au reste du monde. C'est une autre question, mais c'est que cette population vieillit.
D'où la crainte, soulignée par l'enseignante, que la population ne perde son dynamisme et sa capacité à maintenir son niveau de vie en raison d'une pyramide des âges dotée d'une base de plus en plus étroite et d'un sommet de plus en plus large. Selon elle, pour inverser la tendance, il faudrait théoriquement en Grèce quelque 2,7 enfants par femme. Un chiffre que l'on ne retrouve aujourd'hui, précise-t-elle, que dans quelques régions d'Asie ou d'Afrique.
Même si on ne sait pas exactement à quel rythme, la population grecque va continuer à diminuer dans les décennies à venir. La question est de savoir dans quelle mesure le pays et ses représentants politiques seront disposés à se tourner vers l'immigration afin d'enrayer le déclin démographique.
Pour l'heure, pour encourager la natalité, le gouvernement grec propose essentiellement quelques menues subventions, à l'image d'une prime de 2 400 € pour la naissance d'un premier enfant. Des mesures face à un problème structurel et multifactoriel, plus symbolique qu'autre chose.
Reportage de notre correspondant en Grèce, Joël Bronner.
RFI Midi. Un monde de tech.
Votre monde de tech, Dominique Dezonnet, consacré à la mise en garde de la Cour de justice de l'Union européenne à Meta. En ligne de mire, les pubs ultra ciblées. La justice estime que la collecte de données personnelles, indiscriminée, sans limite dans le temps ni de volume, eh bien que cette collecte est une entorse aux règlements européens.
Oui, depuis toujours, les grandes entreprises du numérique nous imposent un seul modèle économique. Il se résume, en fait, avec cette formule qui est devenue quasi magique et qui justifierait tous les abus. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Navigation en ligne, applications sur mobile, courriel, réseaux sociaux, en échange de ces services gracieusement offerts, nous autorisons depuis longtemps la collecte de nos informations privées et autorisons de recevoir un flot continu de publicités dites ciblées.
Des réseaux sociaux qui nous suivent à la trace en agrégeant des données issues de multiples sources.
Effectivement, la traque s'effectue souvent à l'insu des internautes, non seulement sur les plateformes sociales qu'ils fréquentent, mais aussi à travers les différents sites web et applications qu'ils ont utilisés. Le groupe américain Meta, propriétaire de Facebook et Instagram, vient de se faire épingler à ce sujet par la Cour de justice de l'Union européenne. Elle avait été saisie par la Cour suprême autrichienne sur le recours formulé par le militant Max Schrems, fondateur de l'association None of Your Business, signifiant « ce ne sont pas vos affaires ». La plainte portait notamment sur l'envoi de publicités ultra ciblées en rapport avec son orientation sexuelle, des données privées qui n'ont d'ailleurs même pas été récupérées en ligne, mais lors d'un débat public auquel il participait. La décision de la Cour de justice de l'UE en faveur du plaignant marque une inflexion importante dans l'application de la directive européenne sur la protection des données personnelles, nous précise Alexandre Lazareg, avocat au barreau de Paris et spécialiste en droit du numérique.
Le requérant avait déclaré dans l'espace public son orientation sexuelle et a retrouvé des publicités orientées sur son réseau social Facebook. Cette manière de faire du marketing ciblé apparaît pour la Cour de justice de l'Union européenne trop excessive et elle nous dit que non, désormais il n'est plus possible pour les GAFA de collecter de cette manière des données personnelles sur l'ensemble du marché européen, soit 330 millions de consommateurs. Une décision qui va changer la donne de l'économie numérique pour ces entreprises.
La Cour de justice de l'Union européenne préconise désormais une limitation dans le temps et une distinction en fonction de la nature des informations que récoltent les plateformes sociales.
Oui, les réseaux sociaux devront sans doute reconsidérer les modalités de vente de la publicité ultra ciblée auprès de leurs annonceurs. Ce marché, qui est estimé à plusieurs milliards d'euros dans l'UE, devra respecter à la lettre les règles du droit des données personnelles du RGPD, sous peine de très lourdes sanctions financières. Par ailleurs, la décision de la Cour de justice de l'UE fait jurisprudence auprès de chaque juridiction nationale des États membres, a précisé l'autorité dans son communiqué.
Notre monde de tech, signé Dominique Dezonnet. Et on va maintenant parler environnement et de ce nouveau rapport de l'Organisation météorologique mondiale. Elle tire la sonnette d'alarme sur la disponibilité des ressources en eau. Bonjour Igor Strauss.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Le constat est très sombre. L'année 2023 a été la plus chaude jamais enregistrée sur Terre, ce qui a provoqué un nombre de sécheresses sans précédent depuis plus de 30 ans. Et cette perturbation du cycle de l'eau, Igor, elle est très inquiétante parce que la demande ne cesse d'augmenter.
Oui, en 2023, l'écoulement des cours d'eau et l'apport dans les réservoirs ont été inférieurs à la normale dans de nombreuses régions du monde. Et cette baisse de régime se répercute sur la quantité d'eau disponible pour les populations et l'agriculture, ce qui aggrave évidemment la pression qui s'exerce sur les réserves en eau. Pourtant, Anne, et c'est le paradoxe, cela ne signifie pas qu'il y a moins d'eau sur la planète. Soulagna Mishra est la coordinatrice du rapport de l'Organisation météorologique mondiale.
Il y a autant d'eau sur la planète qu'il y en avait avant. En revanche, la quantité d'eau potable disponible n'est plus la même. Des zones qui étaient sèches auparavant deviennent plus humides, et dans les zones qui étaient humides avant, il y a de moins en moins d'eau. Et ces deux situations ne sont pas normales. L'eau n'est plus équitablement répartie, certaines zones en ont trop et d'autres pas assez.
Il y a donc toujours autant d'eau sur Terre, mais elle est inégalement répartie.
Oui, sécheresse à répétition d'un côté, inondations et pluies dans les zones comme le Sahara de l'autre. L'élévation de la température a déséquilibré le cycle de l'eau qui est devenu irrégulier et moins prévisible. Il faut dire, Anne, qu'une atmosphère plus chaude peut contenir plus d'humidité, ce qui augmente le risque de fortes précipitations. Mais parallèlement, cette hausse de la température accélère l'évaporation et l'assèchement des sols, ce qui renforce les sécheresses. Un phénomène qui va s'amplifier avec le réchauffement climatique, dit le rapport. Et pourtant, nous ne prenons pas les mesures qui s'imposent, selon Soulagna Mishra.
Dès que nous aurons davantage de données, nous pourrons faire de meilleures prédictions et mieux nous préparer à l'arrivée des inondations ou de la sécheresse en adaptant notre stratégie. Donc la clé, c'est l'adaptation. Et pour s'adapter, il nous faut de meilleures informations. Donc nous essayons de faire comprendre aux politiques l'importance de ces données et de ce qu'elles permettent de faire.
Mais ces données sur la ressource en eau ne sont pas disponibles partout. Il faut quand même dire que certains pays en manquent cruellement.
Oui, et les États d'Afrique en sont l'illustration. Pourtant, elles sont essentielles, comme l'a rappelé la scientifique Soulagna Mishra. Vous pouvez par exemple avoir une rivière à sec, mais une nappe phréatique juste en dessous gorgée d'eau. Ces données permettent donc de relativiser certaines situations et donc de s'adapter. Selon le rapport de l'Organisation météorologique mondiale, à l'heure actuelle, nous ne connaissons pas l'état réel de la ressource en eau sur Terre. Il faut donc améliorer la surveillance et le partage des données. Et selon le rapport, il y a urgence.
Merci Igor Strauss. La suite sur RFI, le journal, dans 3 minutes, toute l'actualité internationale. Puis notre invité est à midi et demi, temps universel Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Campner.
Vous nous parlerez tout à l'heure.
Du procès en France de l'auteur et journaliste franco-camerounais Charles Onana. Il est jugé pour contestation de l'existence d'un crime de génocide pour des propos contenus dans son livre Rwanda, La vérité sur l'opération turquoise. Et puis en Tunisie, le président Kais Saied a été déclaré réélu avec 90,69% des voix par l'instant. Électorale dans un contexte où les candidats les plus menaçants ont été empêchés de concourir. Certains critiquent des résultats qui rappellent ceux de l'ère Ben Ali, mais dans l'opposition, on le verra, on ne sait pas encore vraiment quoi faire.
À tout à l'heure, Nicolas Sûr. De la musique avant le prochain journal sur RFI, c'est le grand retour du Colombien Yuri Buenaventura. Voici le titre Aquí y Llegamos à écouter dans la playlist RFI ce mois-ci. Aquí llegamos, libres de toda cadena. Aquí aprendimos a vivir en libertad. Y ballena, entre palmeras, trueno, rayo y tempestad. Tú no conoces lo que es la amarga pena. Asesinaste el paraíso en que nací. Porque llegaste con tus fusiles y tu guerra. Y ahora me
de tu bandera. No te equivoques, tú a mí no me conoces. Yo soy el fuego, me protege las estrellas. Con mi tierra y mi gente no te metas. Ahí mi cultura y mi pueblo se respeta.
RFI Midi.